الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, nous allons donc voir le منهج, la méthodologie de الموازنات, c'est-à-dire le fait de mentionner les qualités et les défauts de celui dont on met en garde, son but, c'est le but de cette règle, la clarification de sa caducité, ainsi que la réfutation des ambiguïtés de ses adeptes. La question posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, est-ce que nous sommes tenus de mentionner les qualités de celui contre qui nous mettons en garde? Le Cheikh répond, hafidhahullah, non, ne mentionnez pas leurs qualités. Mentionnez seulement l'erreur dans laquelle ils sont tombés. Vous n'êtes pas chargé de leur procurer une tezkiya, c'est-à-dire une recommandation. Ce que vous êtes chargé de faire, c'est d'expliquer l'erreur dans laquelle ils sont tombés, afin qu'ils puissent s'en repentir et afin que d'autres puissent s'en écarter. Fin de la réponse du Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh Ali Ramli, hafidhahullah, commente en disant: donc le questionnaire ici dit, dans cette question, est-il nécessaire de mentionner les qualités de ceux dont on met en garde? Et quelle est la signification du منهج, c'est-à-dire de la méthodologie de الموازنات? منهج الموازنات signifie que l'on compare entre les bonnes et les mauvaises actions, donc d'une personne. Ainsi, si tu veux mettre en garde contre un innovateur et dire par exemple, un tel est un innovateur kharijit, méfie-toi de lui, prends garde à lui, éloigne-toi de lui, il t'est alors obligatoire de mentionner ses qualités tout en mettant en garde contre ses défauts et en mettant en garde contre lui. Par exemple, si tu dis qu'il est un kharijit, tu dois également dire qu'il est un homme pieux, qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il s'acquitte de la zakat, accomplit de bonnes actions et maintient les liens de parenté, et etc. C'est ce que nous imposent les gens de la bid'a, les gens de l'innovation. Et c'est cela la signification de منهج, c'est-à-dire la méthodologie del موازنات, c'est-à-dire le fait de comparer entre les bonnes et les mauvaises actions, en mentionnant ses qualités ainsi que ses défauts, et ses erreurs dans lesquelles il est tombé, par exemple. Et cette méthodologie est une innovation qui a été inventée par les gens de l'innovation afin de se débarrasser du bénéfice et de l'utilité de la mise en garde. En effet, lorsqu'ils ont vu que les gens de la Sunna, en mettant en garde contre eux, ont éloigné les gens d'eux, c'est-à-dire les gens de Bid'a, et que les gens ont accepté la parole des gens de la Sunna à leur égard, ils ont voulu alors se défendre eux-mêmes et défendre ceux qui sont comme eux. Ils ont donc inventé cette méthodologie pour annuler le bénéfice et l'utilité de la mise en garde. Ils ont d'abord essayé de dissuader les gens de mettre en garde contre les gens de l'innovation en disant que cela relevait de la médisance et d'autres choses similaires. Mais lorsqu'ils ont été confrontés aux preuves, comme celles que nous avons mentionnées dans la réponse à la question précédente, ils ont essayé d'avoir recours à un autre moyen. Et ainsi sont les ruses des gens de l'innovation. Et elles sont sans fin. Ils ont donc inventé cette nouvelle innovation, qui consiste à dire que si tu veux mettre en garde contre une personne, tu dois obligatoirement mentionner ses qualités, afin que la mise en garde perde de sa valeur. Et c'est ça leur but, c'est que la mise en garde perde de sa valeur. Car lorsque tu mets en garde contre une personne, tu veux par cela que les gens prennent garde à elle, et qu'elle ne l'écoute pas, qu'elle ne le suive pas, et qu'ils aient peur pour leur religion, et qu'ils s'en éloignent pour ne pas tomber dans son erreur ou dans l'erreur à laquelle il appelle, ni subir ses conséquences. Mais si tu dis aux gens, par exemple, un tel est un innovateur, mais c'est un homme pieux et bon, à quoi sert alors à ce moment-là la mise en garde? La mise en garde n'a plus aucun bénéfice ni plus aucune valeur, car les gens diront, surtout les gens du commun et de la masse, ils diront « Masha'Allah, s'il a toutes ses qualités, alors ce défaut n'est pas important. Oublions-le. » On ne retient que ses qualités, on délaisse ce défaut-là et cette erreur-là dans laquelle il est tombé. Et cette chose-là, on l'entend dire, cela vient également des gens de l'innovation. On entend ça des gens de l'innovation. Et surtout par les laxistes qui disent « Vous négligez toutes ces qualités pour une seule faute ». C'est ce qu'ils disent. Et lorsque cette règle est propagée parmi les gens, ni parmi les gens de la masse, et qu'ils entendent de toi des mises en garde ainsi que des éloges, quel sera le résultat ? Il n'y aura plus d'intérêt dans la mise en garde. Et c'est cela qu'ils cherchent à atteindre. C'est cela que les gens de l'innovation cherchent à atteindre. Et il faut savoir que la méthodologie, Enid El Mouazanat, est une méthodologie fausse d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'après la voie des pieux prédécesseurs, comme nous allons mentionner maintenant. En effet, lorsque Fatima bint Qais est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a interrogé au sujet de Muawiyah et Abu Jahl. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quant à Muawiyah, il est pauvre, il n'a pas d'argent. Et Abu Jahl, c'est un homme qui frappe les femmes. Est-ce que, dans ce contexte, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les qualités de ces gens-là, de ces deux compagnons, alors que c'était des compagnons du prophète alayhi wa sallam? Non, il ne l'a pas fait. Bien qu'ils soient des compagnons, Muawiyah radiallahu anhu était le scribe de la révélation. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné ses qualités dans ce contexte, car il s'agissait d'un contexte de mise en garde, et non de louange ou d'éloge. Il y a donc une différence entre les contextes. L'interrogateur ici te questionne à son sujet pour savoir s'il peut prendre de lui ou s'en méfier. Tu mentionnes alors ce qui le concerne et tu mets en garde contre lui. Quant au fait qu'il soit musulman, qu'il prie, jeûne et s'acquitte de la zakat, c'est la norme pour tout musulman. Il n'est donc pas nécessaire de le mentionner. Ce qui est important, c'est de dire ce contre quoi ce contre quoi il doit faire attention et s'éloigner. Voilà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il existe de nombreuses preuves à ce sujet. Quant aux récits des pieux prédécesseurs, ils sont trop nombreux pour être comptés. Et les adeptes de cette méthodologie reposent leur argumentation sur deux preuves, qu'ils considèrent eux comme des preuves. La première preuve, c'est le hadith concernant les kharijites, les khawarij. Ils disent, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les concernant, l'un de vous méprisera sa prière en comparaison avec la leur, et son jeûne en comparaison avec le leur, il récite le Coran, mais celui-ci ne dépasse pas leur gosier. Les adeptes de cette méthodologie disent, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné leur qualité, c'est-à-dire au khawarij, à savoir la prière, le jeûne, la récitation du Coran, qui sont des actes des plus louables, et pourtant il a mis en garde contre eux. Donc selon eux, il a regroupé entre les bonnes actions et les mauvaises actions. On leur répond, cette parole est fausse et c'est une erreur dans l'argumentation qui résulte d'une passion véritable. Certains de ceux qui utilisent cette preuve savent que cela ne convient pas dans l'argumentation. Mais voilà ce que la passion fait de son adepte. Il finit par choisir n'importe quelle ambiguïté pour en faire une preuve à laquelle il s'accroche. Et telle est leur méthodologie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, et à la fin du hadith, si vous voyez ceux qui suivent ce qui est, qu'il dit dans un hadith, si vous voyez ceux qui suivent ce qui est équivoque, ce sont eux qu'Allah a désignés, alors méfiez-vous d'eux. Car c'est un signe des gens de l'innovation, le fait qu'ils suivent et qu'ils s'attachent aux paroles équivoques et délaissent les paroles claires et explicites. Ainsi, l'un d'eux délaisse les preuves claires et explicites et se tourne vers des preuves équivoques. Bien que cela ne soit pas le cas ici. On ne peut même pas considérer ça comme une preuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à mentionner ces caractéristiques pour les critiquer et mettre en garde contre eux, et non pour faire leurs éloges. Certes, la prière, le jeûne et la récitation du Coran sont des actes louables, mais comme cela ne leur a été d'aucune utilité, cela devient un blâme plutôt qu'une éloge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith, ils récitent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gosier. Cela signifie qu'ils n'en tirent aucun bénéfice de la récitation de ce Coran. Ce n'est qu'une simple récitation sans effet, sans impact et sans influence. Et c'était leur situation apparente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ces choses pour mettre en garde et non pour mentionner leurs qualités. C'est là une leçon bénéfique importante pour toi, ô serviteur d'Allah. Si tu vois chez un innovateur des qualités et des vertus, ne te laisse pas tromper par celles-ci. Car tel est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi face à un kharijit et observe sa situation, telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite. Prière, jeûne, larmes pendant la nuit. Quelle serait ta réaction? Tu dirais, Masha Allah, il est impossible que cette personne soit un kharijit ou qu'elle suive une fausse voie. Tu te laisserais alors tromper et tu serais égaré. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a mis en garde contre cela. Si un homme est dans l'innovation, ne te laisse pas tromper par ses œuvres pieuses. Car certaines personnes accomplissent des actions dont elles ne tirent aucun bénéfice, comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des kharijit. Regarde qu'est-ce qu'il a dit, il s'adressait aux meilleurs des gens, aux compagnons, à ses compagnons, qui sont les meilleurs des gens après les prophètes. Et il dit, vous mépriserez vos prières par rapport à la leur. Vous mépriserez vos jeûnes par rapport à leur jeûne. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux. Ainsi, il devient clair qu'ils n'ont aucune preuve concernant leur méthodologie d'al-muwazanat, car cela a été mentionné pour la mise en garde et non pour énoncer les qualités. La récitation du Coran, la prière et le jeûne sont bénéfiques et bonnes si elles sont exemptes d'innovation et si la personne suit la sunna. Alors elles sont des actes pour lesquels une personne est complimentée. Cependant, si ces actes ne sont pas conformes à la sunna, ils ne sont pas bénéfiques. Ce qui signifie que la personne n'est ni complimentée ni suivie pour cela. Cela ne signifie pas pour autant que ces actes seront annulés ou ne seront pas acceptés auprès d'Allah. On ne dit pas ça. À moins que l'innovation ne soit une innovation qui rend son auteur mécréant, ce qui nous importe ici, c'est de comprendre que si nous voyons un innovateur et savons qu'il est dans l'innovation, nous ne devons pas être trompés par ses bonnes actions, même si nous le voyons accomplir de bonnes œuvres. Quant à leur deuxième preuve, sur laquelle ils reposent leur argumentation, elle repose sur le fait que certains savants, lorsqu'ils écrivent la biographie des rapporteurs du hadith, parmi les gens de l'innovation et autres, ils mentionnent leurs qualités et leurs défauts. Ou bien parfois, certains savants mentionnent les qualités et les défauts de certains narrateurs. Nous avons déjà répondu à cela en disant « Le contexte est différent. Pourquoi parles-tu de cette personne ? Si c'est pour mettre en garde contre un innovateur, alors tu ne trouveras jamais les pieux prédécesseurs mentionner ses qualités. En revanche, s'il s'agit d'une biographie, comme l'a fait Zahabi dans son livre Siyar, on y mentionne ses qualités et ses défauts, car il s'agit simplement de faire sa biographie. Le fait de faire une biographie signifie que tu mentionnes une partie de sa vie et que tu fais connaître cette personne aux gens. C'est tout ce qui est visé par cela. Il ne s'agit pas, dans ce contexte, de mettre en garde, mais simplement de rapporter la biographie d'une personne. Et le contexte est donc différent. Lorsque tu parles du narrateur, c'est à propos de son attitude, de son aptitude à transmettre, et non pour parler de son innovation ou mettre en garde contre celle-ci. Car l'homme peut être fiable en lui-même, mais avoir quelques faiblesses dans la mémorisation. Les savants disent alors que l'homme est pieux, vertueux et bon, mais il a tel ou tel défaut. Afin que les choses soient claires pour toi et que tu saches si tu dois accepter ou non son hadith, et ce contexte est donc tout autre que le premier. Ainsi, tu comprends que la raison pour laquelle on parle sur une personne est ce qui te permet de savoir quand il est permis de mentionner les qualités et quand cela ne l'est pas. C'est que si tu parles d'une personne pour mettre en garde contre son innovation, alors ne mentionne que les défauts. Quant au fait de t'obliger à mentionner les qualités dans ce contexte, est une méthodologie innovée qui a pour but de rejeter la mise en garde. Et il reste un dernier point sur lequel je veux attirer l'attention. Quelqu'un pourrait dire, est-ce que vous rendez vaines les bonnes actions de l'innovateur qui est tombé dans une seule innovation ? Est-ce que vous rejetez tout le bien qu'il a accompli, le prêche, la da'wa, et tout cela à cause d'un seul mal et d'une seule erreur ? On lui répondra, ne sous-estime pas cette question. Un seul sujet peut te condamner à l'enfer éternel. Un seul sujet peut te faire entrer en enfer pour des siècles, pour des années. Un seul sujet peut te rendre pervers dans cette vie d'ici-bas. Et un seul sujet peut nécessiter la peine de mort. Ce seul sujet que certains pourraient considérer comme insignifiant peut avoir des conséquences immenses. Ce sont tous des jugements religieux avec de nombreuses preuves du Coran et de la Sunna. Est-ce qu'Allah a rendu vain toutes ses bonnes actions, a rendu vain toutes ses bonnes actions à cause d'un seul sujet ? Oui. Est-ce de l'injustice ? Non. C'est la vraie justice. Et voici quelques exemples. À ce propos, Aïcha radiallahu anha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ô messager d'Allah, Abdullah ibn Jud'an, durant la période de la Jahiliya, était généreux avec les invités, affranchissait les prisonniers, maintenait les liens de parenté et maîtrisait le dialogue. Je lui ai donc fait des éloges. Cela lui sera-t-il bénéfique ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Non, cela ne lui profitera pas, car il n'a jamais dit un seul jour « Oh Allah, pardonne-moi au jour du jugement. » Donc toutes ces bonnes actions ont été rendues vaines à cause d'une seule chose, un seul sujet, et cela concerne la mécréance et la foi. Et c'est la même chose pour le shirk. Si une personne vient, qu'elle a un bon comportement avec ses voisins, qu'elle a un bon comportement avec un tel, qu'elle maintient un lien de parenté, qu'elle nourrit les pauvres et autres, mais qu'elle fait du shirk, elle sera, à cause d'une mas'ala, d'un sujet, cela rendra vaine toutes ses actions. Quant aux musulmans, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la tête des khawarij, qui est Dhul Khuwaysira ? Il dit, il surgira de la progéniture de cet homme dont vous mépriserez vos prières par rapport à la leur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cet homme, bien qu'il soit musulman et pris. Malgré cela, il a mis en garde contre lui car toutes ses bonnes actions ont été affaiblies par l'innovation que commettront ceux qui viendront après lui. Et les khawarij ont un seul grand péché, l'autorisation de verser le sang des musulmans. C'est un seul péché. Mais qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur sujet ? Si je les rencontre, je les tuerai comme ont été exterminés le peuple de Ad. Et malgré ce qu'il a mentionné de leur prière, de leur jeûne et de leur lecture du Coran, il a dit, si je les rencontre, je les tuerai comme l'a été le peuple de Ad. Et il a dit également, ce sont les chiens de l'enfer. Alors, où sont passées toutes ces bonnes actions dont vous parliez ? Faites attention qu'Allah vous bénisse à cette nouvelle innovation qui est apparue. Ils vous disent, regarde ses bonnes actions et ses œuvres. Non, ceci est une erreur et ceci est faux. Avec la mécréance, toutes les bonnes actions sont annulées et ne sont d'aucune utilité. Et avec une innovation qui relève de la mécréance, c'est pareil. Quant à l'innovation qui ne fait pas sortir de l'islam, elle affaiblit ses bonnes actions. Ce qui nous importe dans cette vie d'ici-bas, c'est de préserver la religion d'Allah pure et intacte, et de protéger les croyances des musulmans des égarements. c'est ce qu'Allah nous a imposé et c'est ce qu'il a imposé aux musulmans. Qu'ils prennent garde aux gens de l'innovation afin de rester sur le droit chemin et pour que le droit chemin reste clair, limpide et pur sans confusion. Allah dit dans le Coran, traduction du sens rapproché, afin que périsse, après avoir reçu une preuve manifeste, celui qui devait périr, et que vive, après avoir reçu une preuve manifeste, celui qui devait vivre. Notre devoir est donc de laisser ce droit chemin clair, pur et intact, de faire connaître aux gens ces imams, et de les mettre en garde contre ceux qui égarent les gens de ce chemin. Parmi les gens de l'innovation et de l'égarement. Et telle est notre religion, et c'est ce sur quoi nous sommes, suivant ainsi, dans cela, la voie de nos pieux prédécesseurs. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.